Ça s'est passé cette matinée, beaucoup d'âmes perdues. Mais vous voyez, quand je suis rentrée dans la chambre en priant, j'entendais dans mon cœur cette parole « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Ce n'est pas mes paroles, c'est une parole de Jésus. On pense quelquefois qu'on écoute. Et puis, tout à coup, on oublie ce qu'on nous a dit. Et c'est important de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Et je me suis dit, je vais vous donner cette parole aussi maintenant, parce que, bon, vous êtes là, mais vous pouvez être tout ailleurs. C'est vrai, je ne me fais pas d'illusion. La présence physique, elle est là, mais on peut être tout ailleurs. Et puis après, on dit, mais qu'est-ce qui a été dit? On a oublié. Donc, il faut quand même se discipliner, prendre garde à la manière dont nous écoutons. Je sais que maintenant, vous n'aurez plus de problèmes, n'est-ce pas? Ma chère sœur supérieure me disait, oh, c'est difficile pour eux la première fois de trouver le bercail là où ils sont. Mais maintenant, vous connaissez le chemin, vous savez dans quel groupe vous êtes, et ça ira facilement. Et dans les groupes, alors, est-ce qu'il y a eu un peu de liberté? Vous avez pu apprendre un peu à vous connaître aussi? Ou bien vous étiez congelé? Enfin, justement, j'ai lu ici que la piété de Marguerite Duville n'était pas congelée. Et sa sainteté non plus. C'était naturel. Et c'est ça, si on a la nature du divine, n'est-ce pas, participant à la nature divine, ce sont des choses qui doivent devenir naturelles, qui devraient nous devenir naturelles. Parce que nous sommes morts quant à la vieille nature. Elle est là, bien sûr, mais nous la tenons pour hors. Et nous croyons éperdument que nous avons la nouvelle nature qui est en Jésus. Et notre vraie vie n'est pas celle que nous voyons quand nous nous regardons, mais c'est celle que nous pouvons contempler en Jésus qui est à la droite de Dieu. On peut dire, ma vraie vie à moi, c'est celle-là. Comment est-ce que Dieu te voit? Il te voit dans les perfections de son Fils. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Quand on peut être sûr de ça. Et c'est lui qui nous le dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Père nous voit dans les perfections de son Fils. Jésus n'est pas mort pour rien, il est mort pour des grands pécheurs, oui. Il a été crucifié à cause de nous. Mais il n'a pas seulement porté nos péchés, mais il nous a pris avec lui dans sa mort. De sorte que tous les faits qui sont produits en Jésus-Christ se produisent en nous par la foi. Comme lui est mort, nous aussi nous sommes morts. Comme lui a été enseveli, nous aussi nous avons été ensevelis avec lui. Et l'image de cet ensevelissement, c'est quoi? Qu'on le veuille ou non, c'est le baptême. Comprenez-vous? Et voilà pourquoi on aime conserver la figure du baptême qui est une immersion et non pas une petite... quelques gouttes d'eau sur le front, hein, ça n'image rien. Alors, par exemple, je sais qu'au vigile de Pâques, dans l'église romaine, qui a aussi fait des progrès là-dedans, on baptise par immersion. Et je me souviens la première fois que ça s'est fait, plus ou moins ici, on m'a demandé comment faire pour ne pas noyer l'enfant. Il n'y a pas besoin de mettre l'enfant sous l'eau. Et puis dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est comme ça que j'ai été baptisé, moi. Et j'avais 4 mois. Alors, vous comprenez, j'avais avalé pas mal de tasses. Et on devait me faire la respiration artificielle. On voulait que je sois bien mort. Et vous comprenez, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est peut-être humiliant quand on est adulte. Vous croyez que ce n'était pas humiliant, ça? Hein? Être crucifié, là, pour ainsi dire, nu, exposé au regard impudique de la foule, qui disait, oui, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. Puis on voudrait faire un show avec les baptêmes, même chez les évangéliques. J'ai ça en horreur. J'ai ça en horreur. Ce n'est pas un show, un baptême. C'est une humiliation. Et la personne qui est consciente de ça et qui confesse, bien voilà, à ma vie passée, je renonce. Et comme je m'en vais maintenant dans l'eau, j'accepte que la mort de Christ soit maintenant ma mort, tous les jours. Et c'est ça la croix de tous les jours, c'est vivre cette mort, vivre votre baptême, vivre dans cette mort, quant à vous-même, quant au désir de la chair, vous appliquez la mort. Mais par quelle puissance? Par votre volonté, non? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me maintient dans la mort, pour que la vie de Jésus puisse se manifester dans ma chair mortelle. Alors, vous voyez combien c'était vrai le chapitre que vous avez relu ce matin, n'est-ce pas? Qu'on doit ajouter à notre foi la vertu, toutes ces grâces, n'est-ce pas? Et sauver, c'est pas dire, oh ben voilà, maintenant je suis sauvé. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais réalisé qu'à 60 ans cette année, que le Seigneur m'a saisi, que j'ai saisi que j'étais pas simplement un homme pécheur comme tout le monde, mais j'étais un pécheur perdu. Et je me souviens encore de cela, c'était à 11h du matin, et un samedi, et c'est comme si c'était hier, quand j'ai saisi la grâce de Dieu, que j'avais son pardon, et que c'était total, et que je n'avais plus à revenir sur la question. C'est un salut définitif, le Seigneur ne me sauve pas pour un temps, puis après il me laisse courir. Il est le bon berger, je le connais comme sauveur, mais aussi je le connais comme berger. Il est possible que je m'écarte du chemin, mais que fera le berger? Il me ramènera. Il a cherché la brebis perdue, il ramène l'égaré, et puis, si je suis blessé, il me tue? Non, il me pongue. Puis si je suis malade à n'en plus pouvoir, il me porte sur ses propres épaules et me reconduit au percale. C'est ça qui est merveilleux. On apprend à le connaître sous tous ses aspects. Il est sauveur, il est berger, il est notre guide, il est notre bouclier. Prenez tous ces noms de la vie. On a besoin de le connaître. Mais plus on le connaît, plus on l'aime, et plus on sait qu'il nous aime. Parce qu'il ne nous a pas aimés parce que nous étions des bons gars. Il nous a aimés parce que nous étions perdus. Alors,
c'était difficile vos entretiens, ou bien?
Non, ben, vous pouvez vous habituer, hein.
Alors, vous avez fait les lectures que nous vous avions suggérées, proposées, et on avait ajouté à celle de hier, sur notre grand thème, puisque le thème que nous poursuivons maintenant, c'est la parole prophétique ou une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, je vous avais demandé aussi de lire dans le premier chapitre de la première épître de Pierre, où cet apôtre bénit Dieu, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire nous a donné une vie nouvelle, hein, pour une espérance créative, vivante, était basée sur quoi? Sur la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc il est sorti d'entre les morts. Hein. Tous les morts ne sont pas ressuscités, mais lui est sorti, il a été mort, il a été mis dans la tombe, mais il est sorti d'entre les morts. Image d'une résurrection d'entre les morts pour tous ceux qui lui appartiennent. Il y a la résurrection des morts, mais il y a la résurrection d'entre les morts. Et cette résurrection d'entre les morts est appelée dans l'Écriture la première résurrection. Et la résurrection finale, c'est la résurrection des morts. Il ressuscite pour recevoir un corps, mais un corps de perdition. Comprenez-vous? C'est cela qui est terrible. La première résurrection, bienheureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et ne pensez pas que c'est simplement une résurrection spirituelle. Quand on se convertit, on est ressuscité. on est ressuscité par la foi, on a une vie nouvelle. Mais le Seigneur n'est pas seulement mort pour sauver notre âme, il est mort aussi pour sauver notre corps. Et nous croyons à la résurrection des corps, à la résurrection des morts, mais ils auront un corps de gloire. Nos morts en Christ, dont le corps repose dans la poussière, leur esprit est déjà dans la présence du Seigneur, mais ce qui leur manque, ce n'est pas encore l'état de gloire. Quand on nous dit dans les faire part que telle personne est entrée dans la gloire, ce n'est pas une expression juste. Ils sont dans le repos en Christ, conscients, ils voient le Seigneur, ils n'ont plus de lutte, plus de combat, mais ce qu'ils attendent aussi, c'est la résurrection, c'est de retrouver un corps. Et quand le Seigneur viendra sur les nuées du ciel, c'est la première chose qui se passera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui demeurons, parce qu'il y aura des vivants quand le Seigneur viendra, nous serons transmués, transformés en un instant, en un clin d'œil. Donc un demi-clin d'œil pour les morts, un demi pour retrouver un corps, un demi-clin d'œil pour nous, sauf que les morts, ils verront le Seigneur un demi-clin d'œil avant nous. Je dis en un clin d'œil, les deux choses vont se passer. Alors, ça ira vite, hein. Ça c'est une opération. Selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Hein. Nos corps de chair, nous allons quitter ça pour revêtir immédiatement, sans avoir à mourir, sans passer par la mort, parce que c'est ça la bienheureuse espérance. Il y a une génération qui ne passera pas par la mort. Je me souviens, j'avais 20 ans quand j'ai enseigné une personne sur, qui venait de se convertir, enfin il y avait 2-3 mois qu'elle était convertie, puis quand, je lui avais pas parlé du retour du Seigneur, et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, puis vous avez mis si longtemps avant de me dire cette chose merveilleuse. J'étais très humilié. Hein. Mais vous voyez, les gens sont quand même dans l'attente qu'on leur donne des précisions. On dit, oh non, non, c'est trop compliqué, moi j'aime mieux m'en tenir au credo. Je crois en Dieu, le Père, etc. Bon. Alors, c'est un résumé tout cela. Et ça finit, je crois, à la résurrection des morts. Hein. Bon. Mais il faut voir qu'est-ce que c'est que cette résurrection des morts et comment. Alors on nous dit, oui, mais c'est trop compliqué. Alors il y a la première résurrection, puis la résurrection des morts. Une résurrection d'entre les morts. Ça ne vous intéresse pas? Vous dites, oh non, c'est trop compliqué. Moi, je ne vais pas sonder les Écritures. Alors vous ne saurez jamais ce que c'est que la vie éternelle. Comprenez-vous, c'est en sondant les Écritures que vous connaissez la vie éternelle. Et l'apôtre nous dit, saisis la vie éternelle. Mais les gens ne la saisissent pas, ils ont leur salut. Ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'on voit dans leur vie? Il n'y a pas grand-chose de ce salut. Ils sont toujours à se plaindre. Les chrétiens qui se plaignent, qui gémissent toujours. Alors que, quand on a la vie éternelle, on la saisit. Qu'est-ce que cette vie éternelle m'apporte? Et vous savez, quand on a même un peu accablé de corser une bonne nouvelle, on ne s'en presse plus. C'est vrai ou c'est faux? Tout dépend aussi de ce qui occupe notre pensée. Notre pensée peut nous faire oublier la douleur même physique. Je ne parle pas gratuitement. C'est vrai. Alors, nous voulons voir cela. Reprenons notre verset hein, pour que ce soit. Alors, pour une espérance vivante, est-ce qu'elle est vivante cette espérance? Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, voilà la certitude. Est-ce que Jésus est ressuscité? Oui. Alors nous savons que notre espérance repose sur un fait et non pas sur un sentiment. Comprenez-vous? On a fait des retraites ici sur nos les faits divins et nos sentiments. Qu'est-ce qu'on doit écouter? Nos sentiments ou les faits? Oui, c'est divin, hein, c'est ça qui doit compter. Il est écrit. Jésus, est-ce qu'il avait faim après 40 jours de jeûne? Oui, n'est-ce pas? Il avait faim. Il n'avait pas simplement le sentiment d'avoir faim, il avait faim. Alors, à ce moment-là, ça convient. Puis il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, changer Pierre en pain. Est-ce qu'il aurait pu faire ça?
Oui.
Bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne veut pas sortir de la dépendance de son père. Il est devenu homme, il s'est fait homme, et il sait que quand son père le voudra, il lui donnera la nourriture. Mais il ne va pas tomber dans le piège du diable qui voudrait lui faire manifester sa puissance. Que le diable lui dit, c'est rien. Arrière de moi, Satan, qu'il sera pour finir. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il s'attend au Seigneur. Et finalement, qui est-ce qui vient le nourrir? Des anges. Alors nous ne savons pas attendre, nous voulons la délivrance immédiate. Et nous voudrions être des manieurs de puissance. Nous voudrions nous délivrer nous-mêmes, hein, ou que quelqu'un nous délivre tout de suite. Restons dans la dépendance de Dieu. Faisons confiance à cette providence dont parlait Marcus Duville. Le Seigneur interviendra. Et alors, on sera béni. Pour un héritage qui ne peut se corrompre. C'est fantastique, hein? Tous les héritages se corrompent sur la terre. Hein? Il y a des banques même qui font faillite. Ni souliers, ni se flétrir. Lequel nous est réservé où?
Dans les cieux.
Dans les cieux. Mais ça vous intéresse, les cieux? Vous enviez les gens qui vont dans l'espace? Moi, je ne les envie pas parce qu'ils ne font que flotter. Ils flottent. Ils ne vont pas dans la maison du Père. Alors, ils ne connaissent pas l'héritage qui est dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Est-ce que vous savez que vous êtes gardés par la puissance de Dieu? Ou bien, est-ce que vous avez besoin d'être gardés par la gendarmerie royale? Oh, j'aime bien la gendarmerie royale, c'est pas ça, hein. Mais on a mieux que la gendarmerie royale. On est gardés par la puissance de Dieu. Par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, ce salut, vous dites, mais je l'ai, oui. Mais on l'a en espérance, comprenez-vous. Mais nous sommes gardés pour ce salut dont je jouis déjà maintenant, par la foi. Mais un jour, j'en jouirai pleinement quand le Seigneur sera venu. Nos corps de chair seront transformés en des corps glorieux, immortels, qui ne vont plus mourir, et les corps des morts, qui seront ressuscités, seront des corps, justement, incorruptibles. Ils sont semés corruptibles, nous savons bien ce qui arrive à un mort qu'on met dans terre, il est corruptible, mais il ressuscite en gloire. C'est un corps de gloire que nos morts revêtiront, et nous, un corps immortel. Ce salut est prêt à être révélé. Alors, on veut connaître ce que c'est cette révélation. Comment est-ce qu'elle se fera? C'est ce qui fait votre joie. Est-ce que vous avez de la joie? Est-ce que ces choses font votre joie? Je voyais une des sœurs là qui était en train de faire un mot croisé. Et je la voyais très appliquée, n'est-ce pas? Il faut faire des recherches pour les mots croisés. C'est vrai? Pour que ça colle. Mais pour la Bible, ah non, il faut tout simplifier. Puis alors, quand vous simplifiez tout, vous ne trouvez rien. Vous n'avez plus rien. Il nous faut être instruit dans la parole et nous dire, mais même s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, bien allons avec cette lampe dans un lieu obscur, puis peut-être que la lumière nous sera donnée. Puisque la parole de Dieu est une lampe. Afin que, donc, c'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, vous voyez, c'est bien dit, puisqu'il le faut. Donc ça nous est salutaire, les épreuves. On ne saurait pas ce sont les délivrances. Puisqu'il le faut, pour qu'on soit conduit à Dieu, pour qu'on sache que nous avons un Dieu qui intervient dans notre vie, de tous les jours, dans le détail de notre vie. Puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors nous voilà réconciliés avec les épreuves, puisque Dieu nous dit qu'il le faut, que c'est nécessaire. Et nous savons bien que pour nos enfants, c'est la même chose. Quand on éduque nos enfants, il faut aussi qu'ils soient éprouvés, qu'ils le comprennent. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, vous comprenez l'image, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand, lorsque Jésus-Christ paraîtra. C'est là que vraiment le Seigneur sera glorifié, parce qu'il sera manifesté ce qu'il a pu faire en toutes ses créatures. À ce moment-là, quand le Seigneur apparaîtra en gloire, il apparaîtra pas seul, mais avec le fruit de son travail. Et quand on regardera un croyant, alors ça sera la perfection, on verra qui ? Le Christ. Le Christ sera admiré, il l'est dit, c'est un verset que nous verrons, dans tous ses saints, et glorifié par le monde, dans tous ceux qui auront cru. Ce sera quelque chose de merveilleux. Et il n'y aura plus de jalousie entre frères. Membres du corps, ma main gauche, ma main droite n'est pas jalouse de ma main gauche. Ma main droite peut écrire, si j'étais gaucher, ce serait peut-être la gauche. Mais enfin, quand je veux soulever la table, j'ai besoin de mes deux mains. Chaque membre a sa fonction. Et chaque membre est nécessaire. Tous nos organes sont nécessaires. Alors, il n'y a pas de jalousie. Et c'est cela le corps de Christ. Alors, verset 8, vous l'avez lu. Lui que vous aimez. C'est vrai ? Sans l'avoir vu, on ne l'a pas vu. En qui vous croyez sans le voir encore, est-ce que c'est vrai? Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Est-ce que nous connaissons quelque chose de cette joie ineffable et glorieuse? Qu'est-ce qui fait notre joie? Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un. Vous voyez, c'est une relation d'amour. Ce n'est pas les choses qui font notre joie, c'est quelqu'un, c'est une personne. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ce sera le salut total. L'âme étant l'homme tout entier ici. Et alors vous avez ce verset 10. Les prophètes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Donc, ce que nous allons lire nous a été enseigné par les prophètes, mais eux-mêmes se sont intéressés à ce qu'ils prophétisaient. Ils ont appris que ce n'était pas même pour eux. Mais c'était pour d'autres. Et puis ils ont dit, ça ne vaut pas la peine de s'en occuper. Les autres ne m'intéressent pas. Non, ils ont pensé à nous, qui n'existions pas encore de leur temps, et ils ont compris que c'était pour nous qu'ils écrivaient ces choses. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et nous, aujourd'hui, nous ne voudrions pas étudier la parole d'une façon profonde, approfondie, pas simplement faire de la parole le livre de lecture quotidienne, je lis mon passage, puis on a un partage, c'est très bien ça. Mais je veux plus que ça. Parce que ce partage, ce mot quotidien, comme je vous l'ai donné ce matin aussi, c'est bon pour un moment, mais je veux une nourriture. Alors je veux sonder les Écritures, parce que Jésus l'a dit, vous sondez les Écritures, estimant que c'est en elles que vous avez la vie éternelle. Alors c'est en sondant les Écritures, c'est en faisant notre nourriture que nous progressons. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, donc il y a une grâce qui nous est réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque. Il n'est pas dit le jour, mais l'époque. Et l'époque, on veut la connaître. Et on verra on essaiera de voir dans quelle époque nous nous trouvons. On ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais on peut connaître l'époque, n'est-ce pas ? Qui caractérisera l'époque de la venue du Seigneur. Vous l'entendez, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Donc l'Esprit du Christ était dans les prophètes qui ont écrit la parole, qui ont écrit les Écritures. C'est pourquoi on peut dire que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, parce qu'on peut faire des erreurs et nous remettre vraiment sur la bonne ligne. L'Esprit de Christ qui était en eux et qui a attesté d'avance, quoi d'abord ? Les souffrances, et c'est ça que les Juifs n'ont pas compris, que le Christ devait d'abord souffrir. Or, eux, ce qu'ils voulaient, c'était un Christ triomphateur. Un Christ qui vienne pour les délivrer de quel jour ? Du jour des Romains. Alors, il ne prenait dans l'Écriture qu'une partie, parce qu'il est question d'un Christ glorieux, d'un Christ qui ne meurt pas, qui ne peut pas mourir. Comprenez-vous ? Mais le Christ souffrant, le Christ méprisé, l'homme de douleur, qui agonise sur la croix, ça ne peut pas être le Messie. Comprenez-vous ? Voilà ce qui arrive quand on ne veut pas prendre toute la parole de Dieu. Quand on veut prendre de la parole ce qui nous plaît, ce qui nous convient, selon nos circonstances. Alors on prend une partie, et c'est comme ça qu'on devient sectaire. Il faut prendre toute la parole et ne jamais isoler un verset du contexte de toute l'Écriture. C'est pourquoi si vous n'avez pas lu la Bible depuis la première page à la dernière, eh bien je vous encourage de le faire, même si vous ne comprenez pas tout. Un livre, ça se lit depuis la première page à la dernière. Qui n'empêchera pas que vous fassiez vos lectures quotidiennes. Mais il faut que vous ayez une connaissance de la première page à la dernière pour que vous voyez l'unité de l'Écriture sans cela. C'est comme quand vos Bibles étaient fermées. Alors l'Esprit de Christ était en eux et attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc il y a deux parties. Hein. Il y a un Christ qui doit souffrir. Mais ensuite, cette mort doit être suivie de quoi ? De la gloire. La gloire dont elle serait suivie. Verset 12. Il leur fut révélé, vous voyez que eux-mêmes en cherchant, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile, et ils vous ont prêché l'évangile par quoi ? Par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous savez quel jour ? À la Pentecôte, hein ? Et dans lesquels, dans ces choses qui concernent les souffrances et la gloire du Seigneur, les anges désirent plonger leur regard. Ça intéresse les anges, ça ne nous intéresse pas, nous. Ce qui nous intéresse, c'est les bêtes. Ah oui, ben. On l'aura la bête. Elle vient sur ce monde, la bête. Je viens contre les bêtes, le juste prend soin de sa bête, de la bête. Hein. Mais attention, hein, les anges, eux, sont intéressés par ce qui concerne Jésus et nous. Est-ce que nous sommes intéressés ? Est-ce que nous désirons plonger nos regards dans ces choses qui intéressent les anges ? Si les anges sont intéressés par ces choses, ça doit être drôlement beau. Parce que les anges, ils ne vont pas fouiller dans les poubelles. Eh bien, que nous soyons de ceux qui ont aussi cet intérêt. Puis on peut être encore plus intéressé que les anges, parce que les anges n'ont pas eu besoin d'un sauveur. Puisque les anges qui sont restés fidèles à Dieu n'ont pas péché. Tandis que nous savons comment nous avons été aimés, nous connaissons l'amour de Dieu. Alors, vous voyez, vous prenez maintenant le second chapitre que vous avez lu, et ça va nous permettre d'en venir à nos questions. Donc, la première, qu'est-ce que la parole prophétique ? Alors, vous voyez, au verset 19, je parlais tout le chapitre, mais au verset 19, il est dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaines, dans la deuxième épître, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Cette parole qui intéresse les anges devrait aussi nous intéresser. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, et vous savez ce que c'est que ce lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître. Donc le jour n'est pas encore venu. Nous sommes dans quelle période ? La période de la grâce, mais on est dans la nuit, n'est-ce pas ? Depuis que Jésus est parti, la nuit est venue. Jésus était la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il disait qu'il faisait ces choses avant que vienne la nuit dans laquelle personne ne peut plus travailler. On peut encore travailler, malgré tout, dans cette nuit, tant qu'on a la parole, mais il viendra un temps où on ne pourra plus travailler. Et il y a des portes qui se ferment déjà. Alors, il nous est recommandé, donc, de travailler avant la nuit. Mais nous sommes dans la nuit. Mais, d'après les Romains, au chapitre 13, qu'est-ce qu'il est dit de la nuit ? Verset 10 du chapitre 13, où Paul souligne « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Nous devrions savoir en quel temps nous sommes. « C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » La nuit est avancée. Le jour approche. Alors, donc maintenant nous avançons dans la nuit, le jour approche. Mais si ce jour approche, qu'est-ce que nous devons faire ? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Parce que pourquoi est-ce que Jésus a été rejeté ? C'est parce que les œuvres des hommes étaient mauvaises. Et la vie de Jésus apportait la lumière sur ce qu'était la vie des hommes. Et alors, ça les manifestait. Alors, Jésus est devenu insupportable. Pas même ses paroles, mais qu'il était lui-même. On ne pouvait pas supporter un juste au milieu des injustes. Il fallait qu'il soit comme tout le monde. Or, Jésus n'était pas comme tout le monde. Il était le Fils unique de Dieu, qui venait nous montrer ce que Dieu attendait d'un homme. Un vrai homme, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le vrai homme. Et c'est lui qui doit devenir votre exemple. Chez les Juifs, il y avait la table de la loi, il y avait des commandements, mais c'est froid, les commandements. Les cinq de la première table, les cinq de la seconde table, les cinq de la première table qui nous montrent ce que devraient être nos relations avec Dieu. Et puis les cinq de la seconde table qui nous montrent ce que doivent être nos relations les uns avec les autres. Mais quand on a vu Jésus, la loi, elle était dans ses entrailles. Ta loi est inscrite au fond de mon cœur. On voyait ce que c'était en Jésus qu'aimait Dieu. On ne voyait pas ça sur l'étape de la loi. C'est le commandement, c'est la lettre qui tue. Tandis qu'en Jésus, on voyait l'esprit qui vivifie. Il pouvait dire, mais qui d'entre vous me convaincra de péché ? Et les gens avaient la bouche fermée. Hein, parce qu'il était sans péché. Mais il était l'homme tel que Dieu le voulait. Et Dieu l'a désigné, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Écoutez-le. Alors donc, nous savons que la nuit est avancée, rejetons les armes, les œuvres des ténèbres, puisque le jour approche, et revêtons déjà les armes de la lumière, puisqu'on est encore dans la nuit. Alors, dans vos groupes, qu'est-ce que vous avez répondu à cette première question en vous basant sur ce que vous avez lu dans la première de Pierre, dans la seconde de Pierre, qu'est-ce que c'est que la parole prophétique? C'est une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui a son origine dans le cœur de Dieu et qui a été confiée à des hommes. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Et si vous voulez savoir vraiment ce qu'est cette parole prophétique, ce qu'est un prophète, on va le demander dans l'écriture, on ne va pas chercher dans le dictionnaire, Larousse. Mais dans notre Bible, dans les Nombres, au chapitre 12, Dieu dit lui-même comment il se révèle. Il y avait Moïse, dont vous connaissez l'histoire, hein, qui avait une sœur et un frère, Marie et Aaron. Et alors Marie et Aaron ont parlé contre Moïse. Vous voyez que dans la même famille, hein, des gens qui ont pourtant travaillé ensemble, tout d'un coup, ils peuvent avoir une dispute qui vient peut-être d'une jalousie. Ben, c'était au sujet de la femme que Moïse, la femme éthiopienne, qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. C'est les affaires de Moïse. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez, il y avait de la jalousie, là. Et l'Éternel l'entendit. Donc, vous voyez comment on doit être conscient de ce qu'on dit. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Et nous avons vu qu'il a perdu patience aussi, hein. On l'a dit hier, hein. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, la tente où il apparaissait. Et ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente, et il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez mes paroles. Et je vous dis, pourquoi le Seigneur m'a rappelé, prenez garde à la manière dont vous écoutez, vous voyez qu'on s'y retrouve. Hein? Écoutez mes paroles. Alors prenons garde. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Donc c'est pas un prophète, c'est pas un homme qui a imaginé quelque chose, qui a composé une fable. C'est Dieu qui dit, quand il y a un prophète, c'est moi qui me manifeste à lui dans une vision. Ou dans un songe, je lui parlerai. Il l'a fait à Samuel, par exemple, n'est-ce pas? Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il y en a un degré de plus. Il est fidèle dans toute sa maison et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous voyez, quand Moïse devra être discipliné par le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui va le faire. Quand il s'est énervé et qu'il a frappé deux fois, Dieu n'a pas passé là-dessus. Tu n'entreras pas dans le pays parce que tu ne m'as pas honoré aux yeux du peuple. Alors faites attention, ne parlons pas les uns contre les autres, ne parlons pas contre les serviteurs. Laissons le Seigneur agir. Et alors, ce Moïse, est-ce que vous le mettiez parmi les prophètes? Oui, il était un prophète. Et les prophètes, c'était donc des hommes qui recevaient une révélation de Dieu. Et la première fois qu'il est parlé d'un prophète dans la Genèse, c'est qui est appelé prophète? Ben, il n'est pas appelé, j'ai dit que c'est vrai, il a reçu une prophétie, n'est-ce pas? Mais il n'a pas obéi, il n'a pas tenu compte de la parole, il n'a pas pris garde à la manière dont il écoutait. Et puisqu'il a rapporté à Ève, Ève dit « de peur que vous ne mourriez hein. ». Bon. Or Dieu n'avait pas dit ça, certainement vous mourrez. Vous voyez qu'il faut rapporter la parole telle qu'elle est. Ça, ce n'est pas la lettre qui tue. Il faut rapporter la parole telle qu'elle est et pas y ajouter nos idées. Certainement, vous mourrez. Mais on peut parler d'Enoch, par exemple. C'est pas encore dans la Genèse qu'il a dit ça, mais il a dit qu'Enoch, après avoir vécu 65 ans, au fond, s'est converti. Et puis, à 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu. Et combien d'années est-ce qu'il a vécu avec Dieu ? 300 ans. Et au bout des 365 ans, dont 300 ans de marche avec Dieu, il est dit, et il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il n'est pas mort. Enoch n'est pas mort. Il est une figure de ce qui va arriver à une certaine génération qui sera prise sans passer par la mort. Il y a déjà tout dans la Genèse. Hein. L'exemple de l'enlèvement, vous l'avez dans la vie d'Enoch. Et il est dit qu'Enoch était prophète. Et ça, c'est dans Jude que vous trouvez cela. L'avant-dernier livre du Nouveau Testament, Enoch était prophète et il a prophétisé au sujet de la venue du Seigneur. Figurez-vous, cet homme qui vivait avant Noé a annoncé la venue du Seigneur. Et comment en parlait-il? Alors, vous allez lire ça dans Jude. Verset 14, parlant de ceux qui vivent dans les ténèbres, hein, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, vous pouvez compter, chapitre 5 de la Genèse, vous voyez Enoch qui est le septième, hein, vous voyez que ça colle, hein, le septième depuis Adam a prophétisé, qu'est-ce que ça veut dire? Il a annoncé une révélation. Il a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses sœurs myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est très clair, hein? Mais voilà ce qu'Enoch a vu déjà, avant le déluge, et il a annoncé la venue du Seigneur contre ceux qui vivraient de cette manière. Regardez un peu ce qui se passe de nos jours. Alors, je reviens à la Genèse, et je dis qu'Abraham est appelé un prophète aussi. De sorte que vous voyez, la parole prophétique, elle est autant dans la Genèse, dans le Pentateuque, puisque Moïse est un prophète, Abraham est un prophète, Enoch est un prophète, ce sont donc des hommes de Dieu. Et une prophétie, ben, c'est la parole de Dieu. Et en dehors de la Bible, il n'y a pas de prophétie réelle. Quand on vous parle de Nostradamus et de tout ce que vous voulez, hein, les gens du monde, et les gens même baptisés, ils viennent avec toute espèce de prophéties qui ne sont pas des prophéties bibliques. Eh bien, tout cela, c'est faux. En dehors de la Bible, les prophéties qu'on vous fait sont fausses. Vous direz que je suis intransigeant. Je vous aime assez pour cela. Parce que je ne veux pas vous mener en bateau. Parce qu'il pourrait couler. Vous devez en rester à la parole de Dieu. En dehors des prophéties bibliques, c'est faux. Alors ne soyez pas impressionnés par les diseuses de bonnes aventures et tout cela. Et n'allez pas rechercher à connaître votre avenir de cette manière-là. boule de cristal et tout ce que vous voulez, et horoscope, et encore d'autres choses. C'est terrible de penser qu'il y a tant de gens qui se disent chrétiens et qui pratiquent avec ces puissances occultes. La parole ne leur suffit pas. Et ils n'ont jamais mangé la parole, ils n'ont jamais pris le temps. Mais alors ils prennent du temps pour aller chez ces bonnes femmes que je ne méprise pas, me font pitié. On peut prier pour elles. Puis il n'y a pas que des bonnes femmes, il y a des bons hommes qui veulent aussi vous prédire l'avenir. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas cette parole pour être sûr de ce qui va arriver? Regardez Abraham. Et je vais vous le prouver qu'il a été prophète. Abraham au chapitre 20. Il y a aussi ses manquements. On pourrait prendre les faux pas des hommes de Dieu, parce qu'on en fait tous des faux pas. Hein? Et bien, Abraham, il faisait passer sa femme parce qu'il la trouvait belle, même quand elle était vieille. Il l'avait passée pour sa sœur. Il avait déjà fait une expérience désastreuse de ce côté-là, puis il a recommencé. Des fois, ça nous arrive de tomber deux fois. Hein. Mais Abraham, ça y est arrivé. Alors, il était chez Abimelech, puis il a encore demandé à sa femme, dit que c'est ma sœur, parce que j'ai peur qu'il m'arrive malheur, qu'on me tue pour toi. Bon. Et alors, évidemment, chapitre 20. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, vous voyez que Dieu peut même apparaître à un païen. Et lui dit, voici tu vas mourir. Ça c'est une prophétie aussi. Hein, à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Vous voyez que c'est déjà dans la Genèse ça. Elle a un mari, t'as pas le droit. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? » Donc les deux ont été des menteurs. « J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en son, « Je sais. » Moi, je trouve que c'est magnifique, ça. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Un Dieu qui l'empêche de faire l'amour. Et pourquoi? Parce qu'il aime cet homme malgré tout. Ça c'est merveilleux. Les empêchements de Dieu. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Hein? C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? Car il est prophète. Et voulez-vous en avoir la preuve qu'il est prophète? Le Seigneur, l'Éternel, le Sérieux, sans avoir révélé à ses serviteurs, qu'il va faire. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham au chapitre 18? Quand l'Éternel vient visiter Abraham avec deux autres anges, il annonce à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome, n'est-ce pas? Donc il lui révèle une prophétie. Il lui révèle que Sodome et Gomorre vont être détruits. Et Abraham, apprenant cela, se souvient qu'il a son neveu à Sodome. Et grâce à la prophétie, à cette révélation que Dieu lui fait, Abraham se jette à genoux et implore Dieu pour Lot. Mais il a pensé qu'en s'arrêtant à 10, il aurait au moins dit juste à Sodome. Alors il a commencé par 50. Hein. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas faire mourir le juste et le méchant, tu es juste. Alors, s'il y a 50 justes, Dieu dit, s'il y a 50 justes, je pardonne. C'est formidable, hein. S'il y avait eu 50 justes, Sodome n'aurait pas été détruite. Alors il dit tout de quoi, Abraham, c'est dit, mais s'il n'y en avait pas 50, alors il y a 145, puis après 40, puis après 35, 30. Puis là, puis après, il n'ose presque plus. Puis il dit, mais je ne parlerai plus qu'une fois. S'il y en avait 10, c'est arrêté là. Et moi, je pense qu'il a été allé à 1, parce qu'il est dit dans Jérémie, si vous trouvez un homme à Jérusalem, un seul qui fasse vraiment ce qui est droit, je pardonne à la ville. Donc vous voyez, nous devons avoir de l'audace dans la prière. Eh bien voilà, Abraham était prophète. Il a reçu une révélation qui lui a permis de prier. Et si vous êtes à l'écoute du Seigneur, vous aurez des prières qui auront une puissance et qui seront valables, parce que l'homme a quand même été épargné. Donc, vous voyez que c'est vrai que Dieu ne fait rien en secret qu'il ne révèle à ses prophètes. Alors, les prophètes ont annoncé ces choses. Alors, à nous d'écouter les prophètes, de prendre garde à la parole prophétique. Parce que Adam a eu une prophétie, mais il ne l'a pas écoutée. Il a changé la chose. Et il est tombé. Maintenant, Enoch a eu aussi ses prophéties. Et Noé, est-ce que le déluge a été annoncé à l'avance? Combien de temps? 120 ans. Vous voyez, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Il parle à un homme qui s'appelle Noé. Et il lui dit que dans 120 ans, eh bien, la terre entière sera couverte d'eau et que toute chair expirera, sauf ceux qui entreront dans l'arche. Et il lui donne les mesures, il lui commande de faire l'arche. Alors pendant 120 ans, il est dit que Noé a été prédicateur de justice. Mais c'est dans l'épître de Pierre que vous trouvez cela. Il n'est pas dit cela dans la Genèse. Vous voyez que vous ne devez pas vous en tenir seulement à l'histoire sainte, la Genèse, avec l'histoire de Noé, du déluge, et puis des animaux qui entrent dans l'arche, parce que les bêtes sont sauvées, alors que les hommes n'y croient pas. Dieu a pitié des bêtes. Mais il est dit que dans Pierre, que Noé a prêché, parce que l'esprit du Christ était en lui, et il a prêché à sa génération, mais sa génération n'a pas voulu croire. Et quand la porte a été fermée, non pas par Noé, mais par Dieu, c'était trop tard. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez, au sujet du retour du Seigneur, qu'il y a un moment où il sera trop tard. Vous pouvez avoir maintenant une riche entrée dans le royaume, parce que la porte est grande ouverte, si vous joignez à votre foi la vertu, etc. Mais un jour, cette porte, elle sera fermée. Et quand on viendra frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut, mais ils ne l'ont jamais eu. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. De sorte qu'il nous faut être de ceux qui croient. Alors vous voyez, ce qu'est la parole prophétique, c'est une parole qui est donnée par Dieu. Donc tout a été annoncé. L'histoire de la captivité d'Israël, des descendants de Jacob en Égypte, est-ce que ça avait été annoncé? Oui, ça a été annoncé à Abraham qu'il serait 400 ans. Chapitre 15 de la Genèse. Abraham apprend qu'il allait être comme un étranger dans le pays de Canaan. Il ne pouvait pas le posséder à ce moment-là parce que l'iniquité des Amoréens, des habitants du pays, n'était pas encore à son comble. Dieu donnait encore 400 ans de grâce. Comme il avait donné 120 ans au temps du déluge, il donne 400 ans aux Cananéens pour se convertir. Mais voilà, au bout de 400 ans, eh bien, les Israélites sont en Égypte comme Dieu l'avait annoncé à Abraham. Ils sont en Égypte, mais la fin de leur esclavage arrive, et c'est Moïse qui est suscité par Dieu pour devenir l'homme qui va sortir Israël du pays, du pharaon du pays d'Égypte. C'est merveilleux cet enchaînement. Alors vous voyez, la parole prophétique, elle est aussi bien dans la Genèse que dans l'Exode, que dans les Nombres. L'étoile, la fameuse étoile, eh bien, vous la trouvez dans les Nombres. L'étoile qui devait se lever, un astre, c'est dans les Nombres. Et cet astre, c'est l'annonce du Seigneur. Nombre, chapitre 24, verset 17. Je vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, etc. Cet astre, c'est l'étoile qui a conduit qui ? Les mages qui sont venus de l'Orient à Jérusalem. Donc, voilà les prophéties. C'est une parole que Dieu annonce à l'avance et qui va se réaliser plus tard. Alors, vous pouvez la croire. Et la délivrance d'Égypte était annoncée, mais aussi l'infidélité d'Israël était annoncée et la captivité aussi bien de Samarie que de Jérusalem, la destruction du temple, tout cela a été annoncé par les prophètes. De sorte que toute la parole est prophétique. La Bible est le livre prophétique. Du reste, sur 39 livres, il y en a 17 qui s'appellent vraiment les prophètes. C'est ça ? Alors, et comme je vous le disais hier, même les livres historiques, on les appelle les prophètes antérieurs. De sorte que c'est tout l'Ancien Testament qui est une parole prophétique. De sorte que vous faites bien d'être attentif à l'Ancien Testament. Quand j'entends des gens dire, oh, mais moi, je lis le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, ça ne m'intéresse pas. Je doute que vous ayez compris quelque chose dans le Nouveau Testament. Parce que dès la première page du Nouveau Testament, Matthieu, ça vous met où ? Dans l'Ancien. Alors, c'est pas vrai. Puis on dit, oh, je connais la Bible, je connais la Bible. Ils ont lu une ou deux pages. Puis ils connaissent la Bible. On a besoin d'être vrai. C'est comme les gens qui disent qu'ils connaissent le Coran, puis ils l'ont jamais lu. Oh, mais ils connaissent tout. Ils ont entendu parler du Coran, alors ils le connaissent. Mais entendre parler du Coran, c'est pas encore l'avoir lu. Alors, faut pas se laisser impressionner par les gens. Ce qu'ils vous disent, qui répondent, mais il y a la Bible, mais il y a aussi le Coran, et puis il y a aussi les livres de l'Inde, etc. Ils n'ont pas même lu ça. Ou ils n'ont pas comparé. Ou s'ils ont lu les livres de l'Inde, ils n'ont pas lu l'Écriture. Alors, ayez des convictions et croyez-le en dehors de l'Écriture. Il n'y a pas de prophétie réelle. Alors, vous avez votre réponse là. Qu'est-ce que la parole prophétique et où la trouvez-vous ? Vous la trouvez dans la Bible. Et c'est pourquoi nous vous avons demandé de venir chaque fois avec votre Bible. Parce que notre but, c'est de vous faire aimer la parole du livre. Pas aimer le livre au point... Vous baissez le livre, hein, comme il est dit dans la grosse Bible rouge que vous avez, ou blanche. Hein. Si vous baissez le livre, vous aurez 300 jours d'indulgence, ou 3 ans, je ne sais pas quoi. Hein. C'est pas de baiser le livre. C'est de l'aimer et de le lire, comprenez-vous ? Parce que tout ça, c'est extérieur. Judas aussi a donné un baiser. Judas a baisé Jésus. Mais voilà. Non, nous comprenons. Eh bien, que cela soit bien défini. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela. Alors, là, on arrive à la deuxième question. Donc, vous trouvez la parole prophétique dans l'Ancien Testament, là. Comment Dieu a-t-il confirmé à l'apôtre Pierre l'autorité de la parole prophétique ? Eh bien, l'apôtre Pierre, lui, il a eu aussi des difficultés pour croire en Jésus. Mais, parce que quand Jésus lui a dit, qui disent les hommes que je suis, hein, moi le fils de l'homme, alors les gens ont répondu, les gens disent que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, oh, Jésus faisait penser à ces prophètes. Mais il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui a confessé, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, c'est le chapitre 16 de Matthieu, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. C'est pas venu tout seul, de toi, de ton profond. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez, cette parole prophétique que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, que Pierre a dit, c'était vraiment une parole divine. Mais quelques instants après, quand Jésus leur dit, mais vous savez, il faudra que je monte à Jérusalem, je vais y souffrir et je vais être crucifié, on me battra de verre. Je dis, mais Seigneur, que cela ne t'arrive. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Parce que pour Jésus, réussir sa mission, comme je l'ai dit souvent, c'était quoi? C'était mourir. Sans ça, nous étions tous perdus. Il fallait que cette vie sainte soit donnée pour nous racheter tous. Si par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul, la justice de Dieu pouvait sauver tous les hommes. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu se glorifie vis-à-vis du jugement. Par un seul homme, la justice de Jésus, vous pouvez être sauvé, comment? Gratuitement. Gratuitement. Mais alors, ce salut gratuit, eh bien, ça doit nous remplir d'amour. On a une dette d'amour pour le Seigneur. Et notre vie doit être une vie d'amour. On doit être attaché à la personne du Seigneur. On veut connaître celui qui nous a aimés au point d'être fait péché pour nous. Tous les péchés que je peux commettre en pensée, en parole ou en acte, et que tous les hommes commettent, eh bien, je peux dire à ces hommes, comme je peux le savoir pour moi-même, que le Seigneur les a expiés. Dans ses souffrances à la croix, quand il a été séparé de Dieu, eh bien, au fond, c'est la damnation qu'il a subie à notre place. De sorte que ceux qui sont en Christ ne peuvent pas être damnés. Vous croyez? Parce que Jésus a tout souffert pour eux. Il a bu la coupe amère jusqu'à la lie. N'est-ce pas? De sorte que votre salut, il est complet, il est parfait. Vous n'avez plus à y revenir. Il vous a sauvé, mais vous l'êtes en espérance. Mais vous savez que vous aurez ce salut total, complet. Le Seigneur est capable de vous le donner. Alors, comment est-ce que Pierre, là, dans ce qu'il écrit dans cette seconde épître, il est à la fin de sa vie, mais il nous raconte comment pour lui la parole prophétique est devenue une certitude. C'est quand Jésus leur a dit, leur a annoncé à ses apôtres qu'il y en a qui ne mourraient pas parmi eux sans avoir vu le royaume venant en gloire. Ce que justement les Juifs attendaient, un royaume glorieux. Or ils avaient un Jésus qui avait bien la robe sans couture que Marie lui avait faite, qui devait être très belle. Mais enfin, au fond, Jésus était pauvre, quoique enrichissant plusieurs, mais il n'avait rien à lui. Je l'ai dit souvent, n'est-ce pas? Il est né dans la crèche d'un autre. C'est vrai? Et puis, quand il devait passer le lac, il empruntait la barque d'un autre, il n'avait pas une barque à lui. Quand il a voulu entrer à Jérusalem, comme le roi doit entrer, qu'est-ce qu'il a emprunté? L'âne d'un autre, le Seigneur en a besoin. Et puis vous pouvez continuer. Quand il a voulu manger la Pâque le dernier soir, où manger la Pâque? C'était dans la chambre d'un autre, une chambre empruntée, alors que nous voulons notre maison, notre église, notre chapelle, notre, tout à nous. Comprenez? Le Seigneur s'est servi de ce que les autres pouvaient avoir. Moi, je bénis Dieu pour cette maison ici, mais elle n'est pas la nôtre. Mais quand nous sommes comme chez nous. Et c'est ça. On ne va pas dire, ben, vous allez construire quelque chose d'autre pour faire concurrence ici. Non. Nous avons cette maison, louons le Seigneur. Jésus a mangé la Pâque, a célébré la Pâque dans la chambre d'un autre, et c'est là qu'il a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire le repas du Seigneur, comme nous l'appelons très simplement, la Sainte Cène. Et puis ensuite, quand il est mort, c'était sur la croix d'un autre qu'il a été crucifié, c'était la croix de Barabbas. Puis quand on l'a enseveli, c'était dans le sépulcre d'un autre. Vous voyez, il n'avait rien à lui. Il n'avait rien à lui. Alors que le Messie doit tout avoir et finir sur une croix, et Jésus leur avait annoncé, et Pierre avait vu tout cela. Mais il se rappelle quelque chose qui lui montre que c'est certain que le Seigneur reviendra. Il a été invité avec Jean et Jacques sur la Sainte Montagne. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? La transfiguration. Tout d'un coup, il a vu Jésus comme il reviendra en gloire. Il a eu un échantillon de ce que serait la venue du royaume. Ce royaume que Jésus n'a pas pu établir, comme nous le verrons cet après-midi. Jésus n'a pas pu établir son royaume par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a été crucifié. Et Jésus est reparti. Un homme de haute naissance est parti pour un pays éloigné. Puis il donne des tâches à ses serviteurs. Mais il leur dit qu'ils reviendraient, mais qu'ils ne savent pas le jour et l'heure, mais qu'ils doivent être prêts pour son retour. Et quand il reviendra, il établira le royaume. Le royaume en gloire. Or, aujourd'hui, les gens prétendent que c'est l'Église qui va établir l'ordre nouveau. Il faudrait d'abord qu'elle soit plus unie qu'elle ne l'est, l'Église. On est tous divisés les uns contre les autres. On essaye bien dans l'œcuménisme de rassembler tout le monde, mais c'est une semaine par année. Et puis après, chacun retourne dans leur communauté, plus ou moins. Vous voyez, et c'est la division partout. Donc l'Église n'est pas unie, n'est pas un témoignage. Seul le Seigneur connaît les siens. Et vous savez, ce n'est pas absolument nécessaire de faire partie de la même communauté pour sentir qu'on est un. Dès qu'on veut parler du Seigneur, puis que vous sentez l'écho, on se sent unis par des liens de vie, et non pas parce qu'on est inscrit dans le même registre de telle communauté. Je ne dis pas que c'est mal, c'est pas cela. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la vie. Et de pouvoir se la manifester les uns aux autres. Et non pas parce qu'on est de cette communauté-là, on ne se salue pas. Mais ça, puis pourtant, on invoque le même Seigneur. Alors que la grâce de Dieu nous soit donnée. Et pour l'apôtre Pierre, ce qui l'a convaincu, eh bien, c'est la transfiguration. Nous avons vu sa gloire. Voyez, chapitre 2. Verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur revient, il revient avec puissance. Tandis que quand il est venu la première fois, il est né dans une crèche. N'est-ce pas? Et personne ne le savait, il y a eu bien les bergers qui ont eu la visite des anges et qui ont bien voulu aller voir à Bethléem ce qui était arrivé. Puis il y a eu les mages qui ont suivi là, n'est-ce pas? Mais Hérode, lui, n'y a pas cru. Les gens qui connaissaient l'Écriture, qui pouvaient dire c'est à Bethléem, parce que c'était dit que c'était à Bethléem qu'il devait naître. Est-ce qu'ils y sont allés? Ils n'y sont pas allés. Ils ont donné l'endroit. Donc, on peut dire qu'on connaît la Bible, je peux vous dire l'endroit. Mais j'y suis pas allé. Vous comprenez? Ils ont donné les renseignements où ils devaient naître, mais vous ne voyez pas que les Lévites sont allés. Ceux qui ont donné les renseignements aux mages, ils n'y sont pas allés. Et Hérode, est-ce qu'il y est allé? Non. Au contraire, il y a fait aller les soldats pour massacrer tout le monde en espérant massacrer Jésus, le roi. Mais lui, Pierre dit au verset 16, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Tout d'un coup, ils ont vu un Jésus différent de celui qui vivait avec eux dans la poussière de ce monde. Ils l'ont vu dans son éclat glorieux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine, vous voyez que ce mot certain revient, hein, d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Eh bien, nous allons promener un peu cette lampe pour être éclairé sur les circonstances du temps présent, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Nous allons vers le jour. Et c'est pourquoi nous avons dit dans notre dernière retraite, le matin vient. Quand on dit que le matin vient, c'est qu'on est encore dans la nuit. Mais on attend quoi ? Le matin. Le matin vient, mais aussi la nuit. Alors pour ceux qui ne veulent pas du Seigneur, jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et là, nous avons parlé du retour du Seigneur, de l'enlèvement qui a lieu avant le lever du soleil, qui est le soleil de justice, qui est le retour en gloire du Seigneur. Alors, sur le retour du Seigneur, on vous dit, vous voyez, ça, c'est un livre catholique, hein, l'imminence de la parousie, même dans l'Église romaine. Il y a eu tout un travail qui s'est fait. Et c'est des choses que souvent les gens ignorent. Mais Dieu prépare aussi les siens dans l'Église romaine. Il y a aussi un résidu. Dans toutes les églises, il y a un résidu. Il y a des âmes qui sont sincères et qui veulent suivre le Seigneur et qui ne peuvent pas supprimer les passages bibliques. Parce que vous êtes obligé d'en supprimer. Et de ne pas croire qu'un jour le Seigneur va régner sur la terre. C'est vous pas possible. C'est symbolique. Alors je vous ai fait cette petite brochure. Hein. Vous allez la lire, j'espère, cet après-midi. Ce ne sont que des textes. Alors, si le Seigneur ne doit pas revenir, vous pouvez arracher toutes ces pages de votre Bible. Et pourtant, il n'y en a que quelques-uns, hein. Mais au sujet d'Israël, vous voyez qu'on parle beaucoup d'Israël maintenant, eh bien, il y a toute une théologie qui dit que Israël ayant, enfin le peuple juif ayant crucifié Jésus, il n'y a plus de salut pour ce peuple. Ce peuple n'est plus le peuple de Dieu. Hmm? C'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui est le peuple de Dieu ? C'est l'Église. Alors, pour qu'un juif soit sauvé, il faut qu'il se convertisse à l'Église. Laquelle ? Catholique, orthodoxe, protestant ? Comprenez-vous ? La difficulté aussi pour les juifs. Et à cause de cela, de cette fausse conception, quand on dit « les Juifs ont crucifié Jésus », c'est en 1953, je parlais à 500 Juifs, à Tunis, en Tunisie, et j'avais tous ces Juifs devant moi. Et je me suis dit « mais comment est-ce que je peux leur présenter la gloire d'Israël ?» Mon thème, c'était la gloire d'Israël. Et je leur ai présenté d'abord à la manière d'Étienne, l'histoire des Juifs. Alors je les sentais avec moi, ils étaient heureux de voir qu'un type du chrétien connaissait l'histoire juive, etc. Alors il vibrait. Puis j'ai eu la tentation, mais il faudrait m'arrêter là. J'aurais été applaudi. Mais non, il fallait que j'aille plus loin. L'annonce faite à Marie et la naissance de Jésus, etc. Et puis la crucifixion, je l'ai présenté comme le Juif. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas. Il était le seul qui avait accompli la loi. Et alors, il y avait des Romains qui étaient là, qui auraient dû préserver Jésus. Et l'inspiration m'a été donnée, vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. C'était avant Vatican II. Hein. Parce qu'à Vatican II, on a enlevé peuple déicide. Parce que avant cela, l'Église romaine disait que les Juifs étaient le peuple déicide qui avait tué Dieu. Hein. Et à cause de cela, on a fait l'Inquisition. On a brûlé les Juifs. On a commis des abominations au nom de Jésus. Alors comment voulez-vous que les Juifs se convertissent par notre moyen ? Nous avons trop de péchés sur nous dans l'Église. On a fait l'Holocauste, le Shoah, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 50 ans. Hitler et compagnie. Mais c'était des catholiques et des protestants. Alors comment voulez-vous que nous ayons le règne des juifs ? Ils nous reprochent ça ? On est des chrétiens,
c'est tout du même. Donc il nous faut autre chose. Alors il nous faut sonder les Écritures et dire que c'est quand l'Église aura converti le monde entier que Jésus pourra revenir. Hein, parce qu'on y croit, tout le monde dit qu'il croit au retour de Jésus. Mais quand? Tout à fait à la fin. Quand nous, les hommes, nous aurons réussi à établir l'ordre nouveau. Et vous croyez que c'est vrai, ça? Non. C'est pas la parole. L'ordre nouveau, il est établi par quoi? Par le retour en gloire du Messie. Et l'époque de ce retour, et c'est ça qui est extraordinaire quand on lit l'Écriture. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, et nous allons le voir cet après-midi. Il en sera comme au jour de Noé. On mangera, on boira, on donnera en mariage, la vie continuera, etc. Mais c'était la violence et la corruption était sur la terre. Il en sera comme au jour de Lot. Les marches des homosexuels qui veulent qu'on reconnaisse tous leurs droits, etc., n'est-ce pas? Et puis on dit, mais du moment que c'est l'amour, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ben, on en arrive là, il en sera comme au jour de Lot. On mangeait, on buvait, etc. Et puis il y a la destruction. Eh bien, nous voyons que nous arrivons vers ces jours de jugement. Et je pense que ce qui arrive encore dans le golfe Persique est un moment de grâce. Malgré tout, parce que quand les hommes sont en face de la mort, ils pensent à Dieu. Et il faut des fois qu'on soit mis en face de la mort pour penser à Dieu. L'autre jour, j'ai parlé à un homme, la première fois qu'on pouvait lui parler, c'est parce qu'il avait un cancer. Alors on m'a demandé, il a accepté que je voie. Je n'ai pas dit que vous allez mourir, hein. C'est pas ça. Mais je pouvais le préparer et lui montrer certaines réalités qu'il pouvait maintenant écouter, parce que tôt ou tard, il nous faut mourir si le Seigneur n'est pas venu. Mais comme je dis souvent, nous n'attendons pas la mort, nous attendons Jésus. Alors, qu'est-ce que ce lieu obscur où cette parole brille comme une lampe, c'est ce monde? Dans son obscurité comme maintenant, on se demande où allons-nous? Bien, on va éclairer avec la lampe, n'est-ce pas? Maintenant, vous croyez que c'est quand même la parole? L'année passée, j'ai vu un Autrichien qui était athée et qui m'a dit, mais maintenant il est prédicateur, il m'a dit, tu sais, moi qui m'a converti, j'étais athée, j'étais militant communiste, qui m'a converti, c'est les prophéties. Quand j'ai lu la Bible et que j'ai vu que tout s'était réalisé. Les prophéties concernant Babylone, etc., la chute de Babylone, comme on l'a étudié ici aussi, tout s'est réalisé, la venue de Jésus. Avec l'Ancien Testament, vous pourriez écrire une vie de Jésus. Et il a dit, Jésus admet que c'était la parole de Dieu. Donc une prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu, qu'on reçoit de Dieu, qui a l'autorité de Dieu. Et alors, quel est l'objet suprême de la parole prophétique? Quel est l'objet suprême de la parole prophétique? C'est Jésus, comprenez-le. C'est une personne et non pas « je veux connaître l'avenir ». Parce que les gens, quand on leur dit qu'on va faire une étude sur l'Apocalypse, alors ils remplissent la face. Parce qu'ils pensent qu'on va leur faire des dessins sur l'avenir. On leur parlera du retour du Seigneur. Comment cela pourra se passer? Et vous voyez, j'ai reçu une lettre ici qui m'a... Oh, est-ce que je l'ai mis? Oui. Vous voyez ce petit livre, La psychologie et la Bible, un bien triste mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le courant psychologique, il n'y a plus que les psychologues qui comptent, etc. Et on s'est éloigné de la Bible. Mais alors, on court chez les psychologues. J'ai rien contre les psychologues. Hein. Mais peut-être que celui qui m'a écrit a été froissé parce qu'il y avait ce livre-là. On me l'avait envoyé et j'avais lu seulement l'introduction que j'avais trouvé bien. Je l'ai enseigné autrefois quand il était jeune. Celui qui a fait l'introduction, c'est Jean-Paul Dernay de Québec. Hein. Et alors, j'en avais commandé. Et j'ai pas réalisé que un théologien était là et puis il a été, je pense, aussi heurté sur cette question-là de la psychologie. Mais
C'est quand même un bien triste ménage. Alors je reçois avant-hier une lettre du père de Jean-Paul Vernet. C'est mon ami intime. Il a 90 ans, vous voyez que je suis un vieux de la vieille. Mon cher garçon, il fait encore taper à la maladie, il a 90 ans. Il y a sur notre table un petit panier en fleurs en ce moment, et qui nous rappelle votre dernière visite. Alors, j'avais pu les visiter avec ma femme, qui avait donné de bons conseils à sa femme, qui était rhumatisante, ma femme est spéciale. Et elle est bénie. Alors, ils ont encore petit panier. Mais c'est aussi le temps que nous vivons qui nous pousse à prendre contact avec soi. On vit, je crois, les derniers événements prédits il y a 2000 ans, et même 2500 ans. Tout est en... Tout est en... Tout est propre. À nous dire que le Seigneur est proche, et même très proche. Je me demande si les chrétiens s'en rendent compte partout. C'est quand même un bon encouragement pour moi, hein, qui avait hésité de prendre le sujet prophétique. Je te copie au dos de cette feuille un fragment d'un article d'un vieux livre 1855. Et c'est sur les sujets prophétiques. On n'aime pas préciser les dates, mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir que nous touchons au temps de la fin. C'est une époque sans précédent. Une époque, hein, voyez. Dis-moi en quelques mots ce que tu penses. Avec toute mon affection et mes meilleurs messages à ton époux, Philippe. Et alors, le texte, c'est « Alors la terre se reposera de ses 6000 ans de labeur et de misère sous la domination de l'usurpateur. » Cette phrase n'avait certes pas dans mon esprit la portée ou le sens d'une assertion dogmatique affirmant que la domination de l'usurpateur durerait exactement 6000 ans. Je ne pourrais l'affirmer d'après l'Écriture, quoique d'après l'Écriture, bien des choses pourraient suggérer que cette vue est au moins probable. L'incertitude des dates chronologiques nous laisse dans le doute. Ma plume, en écrivant cette phrase, donc qui a été écrite en 1855, se rapportait surtout à ce qui est passé, sans avoir en vue de déterminer quand arrivera le millénium. En même temps, je dois avouer que mon esprit s'est tellement familiarisé avec l'usage typique du septième jour et du huitième jour dans les fêtes juives, l'un symbolisant le royaume, au millénium, et l'autre, l'état éternel post-millénial, que c'est là, je n'en doute pas, ce qui a donné à ma phrase la forme précise qu'elle a revêtue. Enfin, je ne doute pas qu'une telle vue me ressorte aussi du récit de la création elle-même et de la sanctification du septième jour, le retour du Seigneur. On arrive donc au septième. Et il est parlé du millénium dans l'Écriture. Alors nous allons voir cela. Ça m'a vraiment frappé parce qu'il ne savait pas que j'allais faire cette conférence. De sorte que vous voyez qu'il y a une préoccupation. Nous n'allons pas fixer de date, mais nous allons être attentifs à ce que la lampe nous montrera. Seigneur, nous te bénissons tout ce que nous pouvons nous entretenir de ta parole. Et nous te remercions aussi pour cette journée si merveilleuse, pour ce soleil. Nous te demandons que nos amis puissent se détendre et nous prions encore pour Jacques, pour que tu mettes ta main sur lui, pour le guérir dans ton âme. Amen. Alors vous voyez, je vous invite, mais faites attention, j'ai fait le chemin là, j'ai marché. C'est très beau, il ne fait pas si froid, vous pouvez vous promener, faire le tour. Mais allez surtout sur les côtés pour ne pas glisser sur la glace. Hein.